Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et ce matin, deuxième volet de notre émission consacrée aux addictions. Après le cannabis et le tabac lundi dernier, on s'intéresse à l'addiction aux médicaments antidouleurs, les fameux opioïdes comme la codéine, la morphine ou le fentanyl, à la dépendance aux benzodiazépines que l'on peut retrouver dans des anxiolytiques ou des somnifères. Coup de projecteur également ce matin sur l'assuétude à la cocaïne, devenue une drogue facilement accessible dans tous les milieux sociaux. Comment agissent toutes ces substances chimiques sur notre cerveau et dans notre corps? Quels sont leurs effets? Comment fonctionne ce type d'addiction? Quelles sont les stratégies thérapeutiques pour se détacher de ces produits toxiques? Pourquoi est-il nécessaire de bien identifier un comportement addictif pour mieux s'en libérer? Et de marteler, encore une fois, que la volonté ne suffit pas à se libérer d'une addiction. Éléments de réponse ce matin avec nos experts, le professeur Laurent Carilla et le docteur Jean-Victor Blanc. Toutes vos questions et témoignages au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Médecin et romancier en duplex de Toulouse. Quel est le menu de votre chronique? Alors voilà.
Eh bien, je vous parle de cette merveilleuse invention qui est la cabine de téléconsultation.
À tout à l'heure Baptiste. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébéi. Grand bien vous fasse.
Après le décès de sa mère il y a un an, Jordan est devenu addict aux médicaments. Depuis, il mène un combat quotidien pour tenter de s'en sortir. Mais avec le confinement, ses démons reprennent le dessus.
Au lieu de bouger, à penser à autre chose, on reste chez soi, à ruminer. Donc on prend des médicaments pour plus dormir, pour éviter de faire d'autres choses qui pourraient être pires.
Extrait d'un reportage diffusé sur BFM TV en 2020. On reviendra tout à l'heure sur cette addiction aux médicaments, antidouleurs, anxiolytiques, somnifères. Bonjour professeur Laurent Carilla.
Bonjour Ali.
Psychiatre, addictologue au CHU Paul Brousse de Villejuif. Vous êtes le créateur du podcast Addiction avec un K.
Avec un K.
Bonjour docteur Jean-Victor Blanc.
Bonjour.
Psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, spécialiste dans la prise en charge des addictions. Vous publiez chez Arke, Addict, comprendre les nouvelles addictions et s'en libérer. Alors rappelez-nous rapidement ce qu'est une addiction, professeur Carilla.
Moi j'utilise toujours le moyen mnémotechnique, commence à le connaître un peu, les 5 fois la lettre C sur une période d'au moins 12 mois. Alors le premier C c'est une perte de contrôle, le deuxième C c'est un usage compulsif, on peut pas s'empêcher. Le troisième C c'est le craving, c'est un mot anglais qui veut dire l'envie irrésistible de consommer ou l'envie irrépressible de consommer, ou même l'envie à crever de consommer. Le quatrième C c'est un usage continu, chronique, et le dernier c'est des conséquences sur la vie physique, psychique et sociale.
Alors martelons à nouveau que la volonté ne suffit pas pour se détacher d'une addiction.
Non, pas du tout. La volonté c'est un micro morceau, c'est un micro phénomène dans un gros circuit cérébral qui est le circuit de la motivation. Il faut parler motivation.
Alors avant d'ouvrir la boîte à outils pour lutter contre l'addiction aux médicaments antidouleurs, aux benzodiazépines, à la cocaïne, des auditeurs nous ont laissé beaucoup de messages après notre émission de la semaine dernière consacrée au cannabis et au tabac. On va essayer d'y répondre. Thomas qui ne sait pas comment agir avec son fils de 19 ans qui fume une dizaine de pétards par jour, ce qui met en danger, selon lui, sa santé, ses études. Mon discours moralisateur ne fonctionne pas. Que répondre à ce père de famille, Laurent Carilla?
Déjà, un, il faut pas rompre le dialogue et pas induire de résistance. Alors c'est hyper facile à dire en théorie, mais c'est une réalité aussi qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que être très moralisateur, ça fonctionne absolument pas. Donc il faut plutôt essayer de discuter avec son jeune adulte, puisque 19 ans c'est un jeune adulte, sur comment il se sent, pourquoi il en a besoin, qu'est-ce que ça lui fait, est-ce qu'il y a des moments où il en consomme plus, est-ce que ça a un impact sur sa vie quotidienne, ses études, etc. Et si ça devient trop complexe, il peut proposer de voir un professionnel. Même le père, enfin la famille peut aller voir aussi des professionnels dans les CJC, les consultations jeunes consommateurs, c'est possible, ou dans les services d'addictologie.
Docteur Jean-Victor Blanc.
Effectivement, l'idée c'est de continuer le dialogue. Une des stratégies, ça peut aussi être de lui parler de personnes qui ont une addiction cannabis et qui s'en sont sorties. Donc par exemple, ça peut être des célébrités. On écoutait Adèle tout à l'heure. Typiquement, elle vient de dire que pendant le confinement, elle a commencé à boire un peu trop de vin, qu'elle a mis le doigt dans un engrenage et que finalement, elle a décidé d'arrêter aussi pour sa voix. Donc je pense que l'idée, ça va être de parler de séries, de films aussi que le jeune peut consommer, peut aimer, peut apprécier. Et donc justement, rétablir le dialogue et, comme le disait effectivement professeur Carilla, absolument maintenir ce dialogue en s'abstenant de moraliser.
Fanny vous demande quelle est l'implication du cannabis sur la fertilité.
Alors, sur la fertilité, chez les hommes, clairement, le cannabis peut avoir un impact cardiovasculaire, donc il peut avoir un retentissement qui est lié en fait à la combustion du produit, hein, surtout. Donc, le fait que ça brûle au niveau tabac et cannabis, c'est ça qui impacte les artères, la fertilité de l'homme, la spermatogénèse, etc. Chez la femme, c'est pareil, ça, il peut avoir un petit impact de la combustion du produit, en fait. C'est pas que le cannabis et le tabac brûlés.
Christian aimerait savoir s'il est vrai que fumer trop de cannabis rend paranoïaque. Docteur Blanc.
Ça peut effectivement donner des idées paranoïaques. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le cannabis qui est fumé est beaucoup plus fort en THC, donc le tétrahydrocannabidiol, qui est la substance qui va donner la dépendance dans le cannabis. On sait que ce taux, il a augmenté, il a été multiplié par 4 à 10 au cours des 30 dernières années, et c'est précisément cette substance-là qui peut favoriser les idées paranoïaques, voire accélérer l'entrée dans un trouble psychiatrique qui s'appelle la schizophrénie.
Stéphanie, qui est contre la légalisation du cannabis, aimerait qu'on rappelle les effets délétères du cannabis sur la santé. Professeur Carilla.
Oui, mais enfin, c'est un peu... Alors, parce que moi, je suis pour la légalisation du cannabis contrôlé, donc, mais je peux rappeler aussi, en tant que médecin, les effets délétères et donner des informations et de la sensibilisation, même. Jean-Victor Blanc, pareil, c'est le cannabis a un impact cardiovasculaire potentiel, le cannabis a un impact sur les poumons potentiels, le cannabis peut avoir des conséquences psychiques et psychiatriques. Le cannabis peut rendre addict. Plus on consomme tôt, plus il y a des risques d'installer une maladie. Le cannabis ne rend pas schizophrène ou bipolaire directement. Le cannabis peut révéler ou réveiller ces maladies chez certains.
On pourrait s'étonner qu'un médecin addictologue comme vous soit favorable à la légalisation du cannabis.
Je crois qu'on a un recul. Oui. Non, en 2021, honnêtement, non. Non. Il y a le professeur Benyamina, que vous connaissez, Ali, qui connaît bien cette question de la légalisation. Il y a d'autres spécialistes qui connaissent bien cette question de la légalisation. Je crois que on a suffisamment de recul maintenant pour parler de légalisation contrôlée potentielle. On voit ce qui se passe dans les autres pays, notamment aux États-Unis, en Uruguay, etc. Donc, il y a un recul. Je pense qu'il faut réfléchir à la légalisation du cannabis contrôlé.
Jean-Victor Blanc.
C'est une question qui est extrêmement complexe, la légalisation. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a la législation la plus sévère d'Europe et pourtant, on est le premier pays consommateur. Donc, je pense qu'il faut partir de ce constat d'échec et ensuite réfléchir à des solutions. L'idée, en tout cas, je pense, qui doit être pensée, si jamais il y a une légalisation, ça va être de mettre au centre du jeu les intérêts des personnes concernées et notamment les solutions pour se soigner, puisque ce n'est pas en légalisant le cannabis, même si peut-être qu'on va y venir, ce n'est pas en légalisant que ça va le rendre inoffensif. Et juste pour compléter la réponse de tout à l'heure, quand on parle des effets négatifs du cannabis, très souvent et la plupart du temps, le cannabis, on le rappelle, est fumé avec du tabac. Et donc finalement, on dit « Ah, c'est moins bien que le tabac ». En fait, c'est souvent les deux. Et donc, que ce soit pour les risques pour la santé, que ce soit pour le risque de dépendance.
Beaucoup d'auditeurs aimeraient qu'on rappelle les stratégies thérapeutiques efficaces pour sortir du cannabis.
Alors, il y en a beaucoup. C'est les techniques en fait qu'on utilise en addictologie en général. Donc, avant tout, c'est déjà consulter, faire le point par rapport à sa consommation, prendre conscience de la place que le produit a et de ses conséquences négatives. En premier recours, en parler à son médecin traitant, qui peut ensuite adresser vers un centre spécialisé. Et puis finalement, en parler à tout professionnel de santé spécialisé dans les addictions. Au niveau des médicaments, il n'y a pas grand-chose. On en a parlé un petit peu la dernière fois. Le CBD peut être, à certains moments, une solution pour les personnes qui souhaitent réduire ou diminuer leur consommation en tabac. Et puis, bien sûr, la psychothérapie.
Sur l'addiction à la cigarette, Julie nous dit « L'une de mes proches a arrêté de fumer il y a plus de 10 ans, mais elle est devenue addicte aux pastilles de nicotine, environ 15 par jour. Est-ce grave ou sans risque ?» Rappelons que la nicotine est la principale substance addictive de la cigarette.
Alors ça se voit, ça on le voit beaucoup. On voit chez des gens qui ont arrêté de fumer des cigarettes, de fumer du tabac, continuer avec leur traitement substitutif nicotinique. Je vais dire que en termes de réduction des risques, c'est à mon avis et à mon sens, c'est ce qui est remarqué. Hein, on va dire c'est pas très grave. Il y aura un moment où elle pourra arrêter, mais il y a très peu d'impact en fait. Parce qu'il y a eu un débat sur est-ce que la nicotine est cancérigène. Il n'y a pas assez d'arguments pour en parler.
Marie aimerait savoir pourquoi certains arrivent à arrêter de fumer du jour au lendemain, armés de leur seule volonté, alors qu'on martèle dans cette émission que la motivation seule ne suffit pas pour arrêter
la volonté
une dépendance.
Seule ne suffit pas. Ouais. En fait, cette histoire de volonté, c'est un truc de langage grand public. Enfin, c'est pas très grave. Mais il y a une variabilité entre les individus. Il y a des gens. On sait qu'il y a 20% des sujets qui fument du tabac qui ne sont pas dépendants. Donc il y a une espèce de tabagisme social, etc. Donc il y a vraiment une variabilité entre les personnes en fonction du contexte, de l'environnement, etc. De sa personnalité. Et il y en a qui vont arrêter plus facilement que d'autres.
Et pourquoi certains affirment ne pas parvenir à arrêter de fumer alors qu'ils ont tout essayé, patch, médicaments, hypnose médicale, docteur Blanc?
Souvent, chez les patients qui vont amener ce type de discours un peu d'échec, en fait, quand on reprend précisément ce qu'ils ont essayé dans le passé, finalement, les patchs ont été essayés, par exemple, mais à doses trop faibles. L'hypnose a été essayée, mais dans des conditions qui relevaient pas vraiment d'hypnose médicale. Donc, souvent, quand il y a beaucoup d'échecs, et c'est vrai pour toutes les addictions et même toute la médecine, on regarde déjà un peu ce qui a été fait et on essaie de voir si toutes les choses ont déjà été bien menées.
Vous confirmez, professeur Perilla?
Complètement.
Nicolas nous écrit ceci, je vis dans un désert médical, pas de consultation en addictologie ou tabacologie possible là où j'habite. Comment arrêter seul de fumer dans ce cas-là?
Moi je recommande, et on l'a vu avec les confinements et l'épidémie, la téléconsultation. La téléconsultation, se faire aider. S'il a envie de faire quelque chose, qui est seul, c'est souvent très compliqué. Moi je recommande la téléconsultation ou la visioconsultation. Et là on a toutes les options actuellement pour.
Docteur Jean-Victor Blanc, allez-y.
En complément, il y a aussi le soutien des pairs, et notamment pour l'addictologie, il y a les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, qui là aussi peuvent proposer un soutien, alors qui est parallèle et qui est complémentaire au soutien médical en addictologie. Ceci dit, ils sont assez nombreux, et notamment les associations quadrillent le territoire, donc il y en a peut-être une un peu plus proche que des médecins, et puis surtout, ils font aussi également en téléconsultation, groupes, on va dire, en tout cas avec des moyens numériques.
Comment ça se passe une réunion d'alcooliques anonymes, de narcotiques anonymes?
Alors ça, effectivement, on en parle beaucoup dans notamment dans la pop culture, et c'est vrai que dans le livre, j'en parle un petit peu. En fait, on parle beaucoup de ces groupes. On a l'impression dans les films, notamment américains, qu'il y a que ça pour soigner les addictions. Oui. Ce qui est vrai quelque part aux États-Unis, dans un système de soins qui est extrêmement cher, extrêmement excluant pour beaucoup. En France, c'est vrai que la part des groupes de soutien, elle est importante, mais on va dire que heureusement, les soins ne se résument pas à ça. En France, c'est vrai que la première chose, ça va quand même être le système médical, notamment avec ces centres de consultation dont on pourra reparler, les fameux XAPA.
Justement, docteur Jean-Victor Blanc, pouvez-vous nous rappeler comment fonctionnent les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie? Il en existe environ 400 dans tout le pays, hein.
Exactement. Ce sont des centres de consultation qui sont publics, qui sont donc gratuits, couverts par la sécurité sociale, dans lesquels il va y avoir un ensemble de soignants qui va des médecins aux infirmiers, en passant par les psychologues, psychomotriciens, éducateurs. Donc c'est très vaste. En général, on prend rendez-vous dans le centre le plus près de chez soi, mais c'est pas sectorisé, à l'inverse des centres de soins en psychiatrie. Donc n'importe qui peut globalement consulter dans n'importe quel centre. On téléphone, on prend rendez-vous en général. Il y a une infirmière d'accueil qui fait une première évaluation de la sévérité et de la demande. Et puis ensuite, on a rendez-vous avec un addictologue ou un psychologue ou le thérapeute dont on a besoin.
Professeur Laurent Carilla, oui. Est-ce que votre service est débordé en ce moment?
Ah oui, tous les services sont débordés.
À Paul Brousse. Hein.
Ouais, à Paul Brousse, oui, on est débordé. Mmh. Et on manque de médecins, on manque d'infirmiers dans tous les hôpitaux. Donc,
Il y a de nouveaux profils qui viennent vous voir. Est-ce qu'il y a des gens qui, à l'occasion de cette crise sanitaire, ont développé une addiction? Oui. Et sont venus consulter chez
Oui.
vous?
Plus 20-25% à peu près.
C'est énorme.
Ouais, c'est énorme. Depuis mars 2020, en fait, il y a des addictions qui se sont installées, qui se sont révélées chez certains.
Par exemple?
Il y a eu des addictions, enfin des troubles liés à l'usage de cocaïne, il y a des troubles liés à l'usage de benzodiazépines et de médicaments pour dormir, il y a des troubles liés à l'usage de cannabis, il y a eu des troubles liés à l'usage d'alcool.
Vous êtes inquiet?
Ouais, on est un peu inquiet parce que on n'a pas le système de soins en face, je parle pas que de Paul Brousse, pour absorber tout ça, et on parle pas là des problèmes psychiatriques, parce que pareil, enfin je sais pas, à Saint-Antoine, mais en tout cas on voit hein, oui, les comorbidités, donc maladies associées à ces problèmes addictifs, on voit plus de dépression, plus d'anxiété.
Et vous, docteur Blanc, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris?
C'est un peu le même constat. Ce qui est inquiétant et préoccupant, c'est qu'à la différence de des tests Covid où on dit voilà, on peut savoir dans quelle vague on est, si on est au pic, en bas, etc. Là, pour l'instant, on a l'impression plutôt de quelque chose qui continue de monter et on continue de recevoir tous les jours des patients qui ont développé ou décompensé une addiction et ou un trouble psychique pendant le confinement. Mais on ne sait pas quand est-ce que cette vague va refluer.
Décompenser, ça veut dire quoi?
Décompenser, ça veut dire en fait révéler un trouble psychiatrique, par exemple une dépression, un trouble bipolaire ou un trouble schizophrénique.
Dans quelques instants, on s'intéresse aux addictions aux médicaments antidouleurs, aux médicaments à base de benzodiazépines, que l'on retrouve par exemple dans les anxiolytiques ou certains somnifères. Et on s'intéressera aussi à la cocaïne. Et on écoute les Strokes, Last Night. Ça vous fait plaisir, ça?
Merci Ali, j'espère que la semaine prochaine vous m'invitez, on écoute Motorhead.
Les Strokes interprétaient Last Night.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi, sur France Inter.
10h25, deuxième volet de notre émission consacrée aux addictions, médicaments antidouleurs à base et médicaments également à base de benzodiazépines, addiction à la cocaïne consommée dans tous les milieux sociaux. Toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Et nous accueillons Delphine. Bienvenue Delphine.
Bonjour.
D'où appelez-vous?
Bonjour.
D'où appelez-vous?
Bonjour
Delphine. D'où appelez-vous?
À de Dole, dans le Jura.
Très bien. Quelle est votre question, votre témoignage, Delphine?
Alors moi, mon témoignage, c'est que j'ai 46 ans. Mmh. Et depuis l'âge de 18 ans, parce que j'ai subi une enfance très difficile, on m'a, par mes médecins psychiatres, donné anxiolytiques. Alors, au début, des faibles doses, et puis on augmente, jusqu'à arriver à un point où c'était j'allais à la demande, hein, c'est-à-dire que je disais à mon médecin j'ai besoin de temps, alors que j'ai essayé notamment les anxiolytiques, hein, j'ai essayé tout ce qui existait sur le marché, jusqu'à ce que en mois de juin, ça me provoque une hépatite médicamenteuse, puisque mon médecin psychiatre qui me suivait depuis février, tous les 15 jours, augmentait les doses. Alors, Xanax 50, Valium 10 mg, etc. Antidépresseurs, je ne parle même pas des doses. Donc, mon foie a totalement explosé. Et j'ai eu la chance de rencontrer un jeune médecin. Donc, j'ai changé de médecin traitant parce que début juillet, j'ai tapé du poing sur la table. Parce que je me suis rendu compte que j'avais des pertes de mémoire, des problèmes de réflexe. Enfin, ça me bouffait complètement et ça ne m'aidait pas. C'est-à-dire que de toute façon, plus je prenais, plus j'avais besoin. Une vraie drogue. Donc depuis début juillet, j'ai arrêté net, c'est vrai. C'est pas forcément conseillé, mais les antidépresseurs. Et par contre, les anxiolytiques. Bon, j'avais pas de somnifères, mais les anxiolytiques, c'est un pur enfer. Mmh. C'est une véritable drogue. Et c'est une drogue légale, prescrite par les médecins. Et si vous tombez sur un médecin traitant comme j'avais avant, j'y allais et puis je lui disais, et puis c'était marqué si besoin. Alors j'avais des doses, j'avais quasiment 3 comprimés de Xanax 50 par jour, 2 Valium 10 mg par jour, etc. Et je suis, donc depuis le mois de juillet, je lutte parce que je dois déjà, comme une toxicomane, comme m'a expliqué mon médecin, c'est-à-dire que je dois déjà d'abord prendre... C'est plus du si besoin, c'est je dois prendre des doses à heure fixe et ensuite petit à petit dans les mois qui viendront, je ne sais pas quand, peut-être qu'on pourra diminuer. Mais ça, voilà. Et moi à 18 ans, j'ai pas demandé qu'on me donne ce genre de médicaments. On m'a jamais dit il faut plutôt faire une psychothérapie ou faire de la enfin d'autres médecines.
Delphine, est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge puisque vous avez commencé
46 ans. Et on m'a commencé à 17-18 ans.
C'est un témoignage accablant et éclairant, docteur Jean-Victor Blanc.
Effectivement, merci pour ce témoignage. Alors dedans, il y a énormément de choses, donc ça va être difficile de répondre à toutes les questions qui sont posées. Alors bien évidemment, comme vous l'avez dit, les benzodiazépines, c'est une classe de médicaments anxiolytiques, donc on donne contre l'angoisse, qui sont symptomatiques, c'est-à-dire qui agissent de manière très courte et uniquement sur les symptômes de l'angoisse, et qui peuvent effectivement donner une dépendance s'ils sont prescrits au long cours.
Un Français sur 10 prend un médicament à base de benzodiazépines une fois dans l'année, et on retrouve les benzodiazépines dans des anxiolytiques, vous l'avez dit, comme le Xanax, l'Activan, le Rivotril.
Exactement. Ils sont surprescrits en France. Ça, c'est vrai qu'on prescrit plus de médicaments en benzodiazépines que dans d'autres pays. Ceci dit, justement, et le témoignage en atteste, du fait de cette surprescription, il y a aujourd'hui beaucoup de mesures pour essayer de réduire la prescription, puisqu'effectivement, c'est un traitement qu'il ne faut pas arrêter du jour au lendemain, parce que pour le coup, il y a des gros risques de sevrage, mais au contraire, essayer plutôt de faire une diminution progressive pour jusqu'à la fin de ce traitement-là, en se faisant accompagner. Donc le fait d'avoir peut-être changé de médecin qui, en plus dans la prescription, il y avait par exemple 2 benzodiazépines, chose qu'on déconseille, voire qui est même interdite aujourd'hui, c'est vraiment les recommandations de la Sécurité sociale. Effectivement, peut-être qu'il fallait un peu réviser cette ordonnance de manière plus régulière.
Quels sont les effets des benzodiazépines sur le corps et sur le cerveau? Et pourquoi, deuxième question, les benzodiazépines détendent, abaissent l'anxiété, le stress? Quels sont les mécanismes?
C'est une très bonne question. Alors leurs effets, ça va être un effet anxiolytique, il va lutter contre l'angoisse. C'est aussi un traitement qui peut être amnésiant. Donc ça peut avoir des effets intéressants. Ils sont utilisés par exemple en anesthésie générale, puisqu'on n'a pas tellement envie de se souvenir de ce qui a pu se passer pendant l'anesthésie. Ceci dit, au long cours, ils peuvent donner des troubles de mémoire. Dans mon livre Addict, je cite l'exemple du film Blue Jasmine, qu'on voit, donc le film de Woody Allen, exactement, avec Blanche Catlett, qui du coup, finalement, surconsomme ses Xanax pour un oui ou pour un non, et lui donne des gros troubles de mémoire. Alors bien évidemment, ces troubles de mémoire agissent et apparaissent au bout de dizaines d'années, donc il ne faut pas non plus paniquer les auditeurs en leur disant il faut absolument arrêter. Ceci dit, normalement, on n'est pas censé prescrire de benzodiazépine pendant des dizaines d'années.
Rappelons que normalement, la durée maximale de prise d'un médicament à base de benzodiazépine, c'est quelques semaines.
Exactement. C'est 4 semaines renouvelables 3 ou 4 fois. Donc, il y a vraiment cette idée. Et typiquement, c'est ce que disait l'auditrice Delphine. Quand on les met en place, c'est des médicaments qu'on peut mettre encore en place, bien évidemment, qui peuvent avoir des effets, qui peuvent vraiment aider à passer des caps difficiles. Mais quand on les met en place, il faut prévenir le patient qu'on va l'arrêter progressivement et que ce sera pour un temps donné.
Delphine, comment vous sortez-vous de cette addiction aux benzodiazépines?
C'est l'horreur. Mmh. Voilà. C'est être réveillé en pleine nuit avec un effet de manque, mmh, comme drogué. C'est très difficile. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir un jeune médecin absolument adorable, que, mmh, je vois tous les 15 jours. Mmh. Mais j'avoue que j'en veux quand même énormément aux médecins psychiatres, aux mes anciens médecins traitants, qui m'ont prescrit ça pendant des années, et en augmentant les doses. Et elle sent que forcément mes angoisses, parce que c'est un cercle vicieux, tout simplement.
Docteur Jean-Victor Blanc, on peut comprendre la colère de Delphine, hein ?
Bien évidemment, on peut la comprendre, on peut l'entendre. D'où l'idée de finalement s'intéresser, s'éduquer vis-à-vis des potentielles addictions, parce qu'on l'a vu, effectivement, ça peut être des produits illicites comme le cannabis, des produits encadrés comme l'alcool, mais aussi des médicaments pour justement se dire, il faut peut-être pas, et si mon médecin il me les prescrit automatiquement, il augmente les doses, faut peut-être que je me méfie. Et puis surtout, dans un cas comme Delphine, bien évidemment, on n'est pas là pour faire une consultation, mais il faut savoir que dans certains cas, on propose aux patients une hospitalisation pour les sevrer en benzodiazépine, où en fait, on va donner des benzodiazépines qui vont agir longtemps dans le sang, donc justement pour éviter ces symptômes de manque, et qu'on va progressivement diminuer. Dans la plupart des cas, on y arrive plutôt très bien, en tout cas pour la phase hospitalière.
Quels signes doivent alerter, les signes qui alertent qu'on est peut-être addict aux benzodiazépines? Dans votre livre Addict, vous proposez un questionnaire, Jean-Victor Blanc. Alors, je pose quelques questions. Hein. Ressentez-vous le besoin d'avoir ce médicament sur vous en permanence? Diriez-vous que ce médicament est comme une drogue pour vous? Pensez-vous que vous ne pourrez jamais arrêter ce médicament? Et vous, évitez-vous de dire à vos proches que vous prenez ce médicament? Avez-vous déjà caché à votre médecin le fait de prendre plus de médicaments que prescrit? Lorsque vous arrêtez ce médicament, vous sentez-vous malade? Diriez-vous que vous ne pouvez plus vous passer de ce médicament?
Effectivement, on voit bien que ces questions, typiquement, quand on se les pose, c'est que déjà on a un souci vis-à-vis de ce médicament. On rappelle aussi au passage, puisque dans le témoignage avait à la fois les benzodiazépines et les antidépresseurs, que les antidépresseurs, eux, ne donnent pas de dépendance. Et par exemple, on répond jamais à ces questions-là par rapport à un traitement antidépresseur.
Que se passe-t-il si on arrête brusquement les benzodiazépines ?
Ça peut être très risqué, notamment avec un risque de crise d'épilepsie qui peut intervenir dans les heures à l'arrêt de la prise. Donc, encore une fois, si on veut diminuer ou arrêter, il faut d'abord en parler à son médecin et ensuite le faire progressivement, puisque, encore une fois, ça peut être très risqué.
Merci beaucoup, Delphine, de nous avoir appelé. Baptiste Beaulieu.
Oui, ce témoignage est passionnant parce qu'il nous appartient à nous, médecins généralistes, de ne pas rendre ces prescriptions anodines. Mais j'ai... Comment est-ce qu'on fait dans un monde où de plus en plus de personnes souffrent moralement et sont en demande d'une consolation médicamenteuse à lit ? Je veux dire, on ne peut pas vivre dans un monde où on donne des coups de marteau sur la tête des gens et s'étonner après que les gens consomment plus de paracétamol.
Alors Rudy nous demande si on peut devenir addict aux somnifères. Beaucoup de somnifères sont à base de benzodiazépines. Marie-Yvonne, dans le même sens, nous dit « Je prends tous les soirs un somnifère depuis plus de 8 ans. J'aimerais arrêter car je suis victime de cette accoutumance. Y aurait-il une substance moins dangereuse ?» Docteur Laurent Carilla. Professeur Carilla.
Ou Laurent.
Ou Laurent.
Oui. Ou Lolo. Ali, oui, alors on est dans un truc typiquement français, c'est qu'on surconsomme, comme on l'a dit, des benzodiazépines et les drogues Z. Les drogues Z, c'est les drogues pour dormir. Type Zopiclone, Zolpidem, c'est pas des noms commerciaux. Hein. Donc, c'est le même process dont a parlé Jean-Victor, c'est-à-dire qu'il y a des moyens de sevrer les gens en hypnotique et en retravaillant aussi sur les troubles du sommeil. On utilise de plus en plus, nous, comme traitement alternatif, tout ce qui est à base de mélatonine, tout ce qui est... On utilise l'hypnose aussi. Donc il y a différents moyens, on peut utiliser aussi de la méditation, etc., pour essayer de sevrer en hypnotique. Et c'est vrai que le sevrage en hypnotique passe par un sevrage avec des médicaments aussi, souvent.
Docteur Jean-Victor Blanc, quel suivi psychologique, psychiatrique, si on prend des somnifères depuis plusieurs années?
Alors l'idée, c'est de comprendre d'où vient l'insomnie, parce que l'insomnie, c'est un symptôme qui peut venir de beaucoup de maladies.
C'est multifactoriel.
C'est multifactoriel, exactement. On peut par exemple avoir une insomnie qui est en lien avec une dépression. Si on traite la dépression, l'insomnie disparaît complètement. On peut aussi avoir des troubles du sommeil, comme par exemple un syndrome d'apnée du sommeil, qui va faire que le sommeil va être de mauvaise qualité, et donc là, il faut aller aller dans un centre du sommeil pour essayer d'identifier d'où vient ce trouble du sommeil.
Mais il ne faut pas arrêter la prise de somnifères du jour au lendemain, surtout quand on en prend depuis plusieurs années.
Effectivement, l'idée, ça va être de le faire de manière très progressive. Et là aussi, on sait que finalement, la plupart du temps, les personnes qui ont l'impression d'être dépendantes aux somnifères, en fait, sont surtout dépendantes à l'idée des somnifères. Parce qu'en fait, un somnifère, on sait qu'au bout de quelques semaines, au niveau vraiment purement pharmacologique, il ne va même plus avoir d'effet. Donc c'est finalement une sorte d'effet placebo qui peut être un peu un piège.
Que répondre à Marie sur notre page Facebook qui nous dit « Les médicaments comme le Xanax aident beaucoup pour les angoisses non expliquées et le fait de les avoir sur soi est très rassurant ». Même si je n'en prends pas forcément.
Elle a tout à fait raison, cette auditrice. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, ça peut être finalement quelque chose de rassurant d'avoir toujours une benzodiazépine. Moi, j'ai certains patients qui me disent dont on a arrêté justement la prescription de benzodiazépine et qui gardent depuis plusieurs mois, voire quelques années, toujours un comprimé sur eux. Bon, dans ces cas-là, on rappelle, il n'y a aucun effet secondaire d'avoir un comprimé sur soi. Si ça permet de rassurer la personne, c'est tout à fait légitime. Et pour le coup, il n'y a pas d'effet, bien évidemment, au niveau de la santé.
Question de Maryse, est-ce que les antidépresseurs peuvent provoquer une addiction?
Pas une addiction. Par contre, il ne faut pas les arrêter brusquement. Parce qu'on sait que si, notamment, la dépression est pas non suffisamment traitée et qu'on arrête brutalement les médicaments comme globalement tous les traitements au long cours, il peut y avoir des symptômes de rebond. Par contre, il n'y a pas ce qu'on appelle la perte de contrôle. On n'a jamais vu de personnes doubler leur dose d'antidépresseurs dans le dos du médecin. Et on le rappelle, et ça c'est peut-être la chose la plus éloquente, il n'y a pas de trafic de médicaments antidépresseurs, ce qui est le cas de la plupart des médicaments qui sont mésusés.
Oui, ça, on parle plutôt de dépendance physiologique en fait, comme avec certains antidouleurs après des opérations.
Alors j'aimerais qu'on s'intéresse aux opioïdes. Certains opioïdes sont utilisés dans un but thérapeutique, dans des médicaments antidouleurs comme la morphine, le fentanyl, la codéine. Rappelez-nous exactement ce que c'est, comment agit un opioïde ?
Toute cette classe de médicaments va en fait de l'opium à la morphine, à la codéine, à l'héroïne, au fentanyl ou au carfentanyl, qui est une drogue de synthèse. C'est finalement des drogues qui sont initialement dérivées de la plante du chanvre et qui vont agir au niveau des récepteurs opioïdes endogènes qu'on a dans le corps humain et qu'ils vont apaiser vraiment de manière spectaculaire la douleur, mais aussi, on le sait aujourd'hui, l'anxiété, voire améliorer l'humeur. Donc comme ça, ça paraît très séduisant. Le risque, bien évidemment, c'est que c'est des médicaments qui vont donner une dépendance.
Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Zone Interdite, diffusée sur M6 le 21 novembre dernier.
Le tramadol, c'est un opioïde et une sorte d'antidépresseur mélangé. Et ça veut dire que ça a les effets indésirables de l'un et les effets indésirables de l'autre.
Pourtant, 12 millions de boîtes sont vendues chaque année. C'est l'antidouleur opioïde le plus prescrit en France. Mais selon l'Agence nationale du médicament, ce serait aussi le plus meurtrier.
12 millions de boîtes vendues chaque année en France. Qui peut devenir accro à un médicament opioïde type tramadol, docteur Blanc ?
Tout le monde, honnêtement, et ça c'est vraiment l'enseignement qu'on a de la crise des opioïdes aux États-Unis, qu'on appelle aussi les morts du désespoir.
93 000 morts en 2020.
Exactement, et un certain nombre de célébrités, là aussi j'en parle dans le livre, qui vont de Mac Miller à Michael Jackson, Prince, ils sont tous décédés d'une overdose d'opioïdes, ce qui montre un peu l'impact de cette crise majeure aux États-Unis. Encore une fois, un système de soins différent où la plupart des syndromes douloureux vont être traités uniquement par opioïdes, et on sait aussi qu'il y a une grosse influence de l'industrie pharmaceutique.
Comment s'installe ce type d'addiction ?
Très simplement, c'est-à-dire que la plupart des patients qui en sont décédés aux États-Unis avaient un syndrome douloureux, c'était casser une jambe, une hanche ou une opération. Il y a une surprescription d'opioïdes qui a été renouvelée, un peu comme on l'a vu pour les benzodiazépines. Et donc finalement, au bout d'un moment, le corps s'habitue, on a besoin d'augmenter la dose. Et pour le coup, c'est des produits qui sont extrêmement addictifs.
Paul nous dit qu'il a refusé de prendre du codoliprane prescrit après un arrachage de dents, de peur de devenir dépendant à la codéine. Professeur Laurent Carilin.
Alors, il a eu raison, mais on ne devient pas dépendant comme ça. Hein. S'il n'y a pas de prise antérieure, s'il n'y a pas d'élément de vulnérabilité, on ne devient pas. S'il y a des prescriptions qui sont très limitées, surveillées médicalement, il y a peu de risques.
Alors, quels sont les facteurs de risque, justement?
Il y a les sujets jeunes, il y a les femmes, il y a ceux qui ont des antécédents d'addiction, il y a ceux qui ont des troubles psychiatriques, il y a certaines catégories sociales qui sont plus touchées que d'autres. Tout ça, c'est un mix. Il y a aussi des facteurs de vulnérabilité à être addict. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte. C'est-à-dire, si on vous prescrit une ordonnance de codoliprane suite à une petite intervention sur une durée très limitée avec une assurance médicale, il y a très peu de risques. Il ne faut pas commencer à flipper.
Effectivement, et on rappelle qu'en France, cette crise, pour l'instant, n'a pas de crise d'opioïdes. En France, il n'y a pas eu de surprescription. Il n'y a pas, heureusement, le nombre de décès qu'on a constaté aux États-Unis, puisqu'on a un système de soins qui, globalement, là aussi, est différent, puisque en France, globalement, on va plutôt avoir tendance à traiter l'origine de la maladie plutôt que uniquement un traitement symptomatique.
Depuis 1999, les opiacés ont tué plus d'un demi-million de personnes aux États-Unis. En France, selon l'Agence nationale du médicament, l'accoutumance aux opioïdes provoque 5 morts par semaine. Alors ce chiffre semble très sous-estimé. Les hommes sont plus concernés que les femmes, avec un âge moyen à 38 ans. Pour certains médecins et chercheurs, la situation française n'est donc pas comparable aux États-Unis, comme vous le disiez, Jean-Victor Blanc. Mais selon le psychiatre Nicolas Autier, dans Libération, les médecins prescrivent plus de médicaments antalgico-opioïdes aux États-Unis. La population est donc plus exposée aux États-Unis. À quoi il faut faire attention pour qu'on n'ait pas une situation comparable chez nous en France ?
Énormément de facteurs, et notamment celui qu'on retrouve bien aux États-Unis, qui est celui de la précarité, le fait que les personnes sont mal éduquées vis-à-vis de leur santé, mais aussi qui sont dans une certaine précarité. Et là, on a une étude française, que je cite dans le livre également, qui montre que une augmentation de la précarité de 1% augmente une hausse des prescriptions de 10% d'opioïdes. Et ça, c'est vraiment en France, et ça a été fait notamment pendant l'instauration du RSA. Donc, on voit bien que c'est une crise qui est politique avant tout.
Écoutons Véronique qui décrit le manque de tramadol dans le podcast Addiction.
Si j'étais prise dans quelque chose et que j'avais 10 minutes de décalage par rapport à l'heure de ma prise habituelle, je me rendais compte que je venais tout de suite anxieuse, j'étais irritable, les signes de manque, donc c'était de l'anxiété, c'était je commençais à avoir les froids aux extrémités, je commençais à avoir vraiment les sensations au niveau de la peau, c'était insupportable, je supportais plus un pantalon, je sortais tout me faisait mal, le bruit extérieur, toutes ces choses-là commençaient un petit peu au fur et à mesure du temps. Bon, je me rendais compte que j'étais...
Vous aviez des douleurs, justement ?
Oui, une fois. Et c'était mémorable.
C'était un enfer ?
Oui, un enfer. Oui, parce que sur le coup, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte, étonnamment. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Jusqu'au moment où je me suis mis vraiment à être très, très mal et où on m'a hospitalisée parce qu'on n'arrivait plus à me calmer. Oui, et puis ce manque extrême, quoi.
Ouais.
Ce manque. Mais à ce moment-là, je voulais pas avoir que c'était du manque.
Et les ouais sont signés du professeur Carrie, là.
De moi. Merci pour l'extrait.
Sur l'état de manque.
Le syndrome de sevrage en opiacé, c'est comme une grippe, en gros.
C'est
comme une grippe, ou comme un Covid, pour être plus moderne. Donc, c'est des symptômes pseudo-grippaux, avec on n'est pas bien, on se sent pas bien, on a des douleurs. Ça dure naturellement, ça dure avec des opioïdes classiques, ça dure une semaine.
Bonjour Céline.
Bonjour.
Bienvenue. Vous appelez
Merci.
De Lyon.
Oui.
Et c'est votre fille qui a pris du tramadol, c'est ça ?
Alors non, en fait, c'est pas ma fille qui a pris du tramadol.
Non.
C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques temps, ma fille avait une espèce de gastro-entérite avec des douleurs au ventre qui étaient extrêmement importantes.
Mmh.
Et on n'arrivait pas à voir un médecin. On voulait pas trop traîner aux urgences, donc on appelle une plateforme en fait en ligne qui était déjà venue, hein, des médecins qui étaient déjà venus chez nous et qui étaient très bien. Et là, en fait, il n'y avait pas de médecin, donc on nous propose un rendez-vous par téléphone. Quelqu'un nous rappelle. Voilà, donc ma fille fait son rendez-vous médical par téléphone, donc pas par visio. Et suite à ce rendez-vous, en fait, arrive une ordonnance, comme c'est souvent le cas. Et là, je vois tramadol, une boîte 50 mg, un ou deux comprimés à prendre, si Spasfon, Doliprane ne font pas effet. Donc en fait, moi je tenais quand même à apporter ce témoignage parce que ça m'a énormément choquée. Bien entendu, ma fille n'a pas pris ce médicament parce que j'avais entendu parler de ce médicament, que je trouvais que c'était disproportionné par rapport à des maux de ventre. Et je me dis, c'est quand même incroyable qu'un médecin généraliste, sur un simple coup de téléphone, ne connaissant pas ma fille, qui a 14 ans, qui a des douleurs effectivement assez importantes, puisse prescrire comme ça, dans ces conditions, un médicament comme celui-là, qu'elle n'a pas pris du coup, parce que nous on a été attentifs et donc du coup elle n'a pas pris ce médicament, mais elle aurait très bien pu le prendre si moi je connaissais pas ce médicament.
Témoignage édifiant, docteur Blanc.
Effectivement, vous avez bien fait de vous méfier, d'autant plus que la famille des opioïdes, c'est des traitements qui jouent sur le transit, qui ont plutôt tendance à ralentir le transit, donc qui sont pas neutres du tout. Donc pour une douleur de ventre, une grippe intestinale, ça paraît,
paraît compliqué. Ouais.
Ouais, l'enclume pour l'écraser de mouche, quoi.
Merci beaucoup Céline pour votre témoignage. Les stratégies thérapeutiques, si on devient addict aux opiacés, je sais qu'il existe une arme puissante, c'est la naloxone. Une fois injectée ou inhalée, cette molécule peut stopper immédiatement une overdose. C'est ça.
L'naloxone, c'est un médicament anti-overdose, ouais. Effectivement. Donc le risque principal des opioïdes, d'accidents des opioïdes, c'est l'overdose, comme avec l'héroïne dans les années 90. Mais le traitement d'une addiction aux opioïdes, c'est les traitements de substitution aux opioïdes.
Donc, par exemple
comme la méthadone ou la buprénorphine au dosage.
D'accord. Il est 10h46, il est l'heure de retrouver la chronique de notre médecin romancier Baptiste Beaulieu.
France Inter. Grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Et un Baptiste Beaulieu un peu en colère.
Oui, Ali. Si vous allez à Toulouse dans un certain supermarché dont je vais taire le nom, vous allez trouver entre les étals de fond de thym et de pommes de terre une jolie petite cabine à peu près de la taille d'un photomaton, sur laquelle est écrit en majuscules et couleurs vives. Des médecins généralistes et spécialistes vous attendent derrière cette porte. Le tout agrémenté d'un point d'exclamation énorme pour qu'on saisisse bien la chance de pouvoir bénéficier d'un tel privilège. Vous entrez dans la petite cabine, vous refermez la porte derrière vous et hop, un petit coup de carte vitale plus tard, vous voilà en pleine discussion avec un docteur en médecine. Est-ce que c'est pas merveilleux? Mais je suis sûr qu'on pourrait aller un peu plus loin. Non, est-ce qu'on pourrait pas supprimer l'écran de téléconsultation par une boîte mail où on écrirait par exemple « J'ai mal au ventre et j'ai envie de me flinguer » et hop, on reçoit une ordonnance pour du spasmon et un anxiolytique sans avoir eu besoin de parler à qui que ce soit. Le pied. Puis il faut bien résoudre le problème des déserts médicaux et si on peut le régler à moindre frais, l'affaire est entendue. Moi, Ali, je pense à Marie-Thérèse. Marie-Thérèse qui a l'âge de son prénom et qui vient me voir au cabinet médical. Elle vient me voir, mais en vrai, je la soupçonne de venir pour voir quelqu'un, en fait. Parce qu'elle est un peu seule, vous voyez. Marie-Thérèse, eh bien, avec cette merveilleuse invention, elle n'aura même plus besoin de patienter en salle d'attente. Elle va au supermarché et hop, entre deux poireaux, elle voit un monsieur en blouse blanche derrière son écran prêt à lui renouveler son traitement. Et je suis sûr que Jean-Kévin Machin, le jeune entrepreneur qui s'est dit que c'était génial, cette invention, qu'il y avait, il a sans doute raison, une montagne de bonnes raisons à inventer un truc pareil, à commencer par se faire pas mal de fric. Bien sûr, il s'arrangera avec sa conscience en se persuadant qu'il lutte contre les déserts médicaux, tout ça. Mais écoute, Jean-Kévin, toi et tes potes start-upers, j'ai un truc à vous dire, et peut-être que je suis affreusement réactionnaire, mais je vais vous le dire quand même. Remballez votre pseudo-cabinet médical, aka toilette publique, aka photomaton. Faites ce que vous voulez de votre côté. Construisez la société que vous voulez, mais laissez-nous. Partez devant, on vous regarde. On n'en veut pas de ce monde-là. On n'en veut pas pour les patients. On n'en veut pas pour les soignants. On veut voir les patients. On veut les voir en vrai, qu'ils nous voient en vrai. On veut pouvoir soutenir directement leur regard quand leur regard a besoin d'être soutenu. On veut coller le pavillon de notre stéthoscope à la peau sous laquelle bat leur cœur et gonfle leurs poumons. On veut pouvoir coller le dos de notre main à leur front quand ils se disent fiévreux. On veut pouvoir poser fugitivement la main sur leur épaule quand ils quittent le cabinet après avoir beaucoup pleuré dans l'intimité de notre bureau. Et j'ai rien contre la téléconsultation, je la pratique moi-même avec certains patients qui vivent dans des déserts médicaux. Mais tout n'est pas ubérisable, Ali. Tout ne vaut pas tout. On a besoin, je crois, de verticalité. On a besoin de sacré, on a besoin de lieux sanctuarisés où on parle sans peur, où on est écouté sans jugement, où on a un autre être humain tire l'espace d'une seconde, l'isolement dans lequel certains corps d'autres êtres humains sont jetés en écoutant ce corps, en palpant ce corps, en touchant ce corps, en le faisant exister aux yeux d'une autre personne. Il y a des gens dans notre société qui ont besoin de ça. Des personnes jeunes ou moins jeunes qui vivent seules, même et surtout quand elles sont entourées de plein de gens, qui ont besoin de ça même dans les grandes villes, surtout dans les grandes villes peut-être, pour savoir qu'elles existent encore ces personnes, qu'elles existent pour quelqu'un, qu'elles existent pour de vrai. Ne leur enlevez pas ça. C'est mal, c'est nul, c'est immoral, c'est inhumain. Ne leur enlevez pas ça.
Baptiste Beaulieu, et vous pouvez partager sa chronique sur l'appli France Inter. Dans quelques instants, on s'intéresse à l'addiction à la cocaïne, nouvelle drogue des classes moyennes selon l'Express. Et je vous propose d'écouter Delgrès, ces mots-là.
Dis-moi ça qui passait, dis-moi ça qui passait.
Del Grès interprétait Semola.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
10h52, deuxième volet de notre émission consacrée cette saison aux addictions, médicaments antidouleurs, médicaments à base de benzodiazépines, cocaïne. Professeur Laurent Carilla, docteur Jean-Victor Blanc, à propos de la cocaïne, j'ai souvent entendu dire qu'elle ne provoquait pas de dépendance. C'est une idée reçue
Complètement. La cocaïne rend dépendant. La cocaïne, la dépendance est assez sournoise en fait. C'est-à-dire on a l'impression que ça s'installe... pas, que on peut gérer. Moi, je les appelle les « je gère », les patients qui disent « je gère ». Quand je dis « est-ce que vous prenez de la cocaïne ?», ils me disent « ils viennent pour d'autres problèmes ». Ouais, j'en prends de la coke, mais je gère. Et ça, on s'aperçoit que il y a une belle étude néerlandaise qui disait que les « je gère », en l'occurrence, un an ou deux ans après, ils avaient des gros troubles cognitifs, de mémoire, etc. Donc non, il y a une dépendance. Moi, j'aime pas les mots physique et psychique, mais pour parler grand public, on va dire qu'il y a une dépendance psychique et physique.
Comment agit la cocaïne? Quels sont ses effets, docteur Blanc?
La cocaïne, c'est un produit qui est psychostimulant, donc elle appartient vraiment à la famille des produits qui vont donner une énergie assez redoutable et aussi une sensation d'acuité intellectuelle, ce qui va être vraiment un piège, puisque la cocaïne, c'est un peu sa spécificité. Elle va être consommée principalement à visée festive, mais c'est vrai que dans ce cadre-là, la plupart des patients, il n'y a pas de dépendance, ils ne consomment pas tous les jours. Par contre, elle va être très consommée aussi, à viser, on va dire, de super pouvoir pour travailler plus. Et c'est vraiment le se droguer plus pour travailler plus. Mmh. Et pour le coup, ça va être du coup encore plus un piège, puisque les personnes vont devenir dépendants. Vous allez dire, je ne peux pas travailler sans cocaïne. Et ça va aller de métiers qui vont être un peu dans l'entertainment, dans le show business, mais à des... Moi, j'ai plusieurs professeurs des écoles qui prennent de la cocaïne.
Mais ce n'est plus vrai. Pendant longtemps, la cocaïne a été, comme le rappelle l'Express, l'attribut des professions urbaines créatives. La consommation de cette substance illicite atteint toutes les strates de la société et toutes les régions. Et selon Julien Morel d'Alleux, directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, la cocaïne fait partie des substances illicites dont la diffusion a le plus progressé ces dernières années. Mmh. Il s'agit de la deuxième drogue illicite la plus consommée en France.
Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai écrit en 2009 un livre qui s'appelle « La cocaïne, tout le monde en prend ». Mmh. Bon, c'est un titre un peu provocateur, mais c'était une réalité. C'est-à-dire que ça avait perforé toutes les classes sociales.
Mmh. Y a-t-il des personnalités qui se tournent plus facilement vers la cocaïne ?
Non, il y a pas. C'est pas des questions de personnalité. C'est plutôt des questions de. Et encore une fois, il y a tous ces facteurs de vulnérabilité qui interviennent, et on peut pas prédire qui va aller plus vers la cocaïne qu'un autre.
En tout cas, la cocaïne est un produit de notre époque. Notre époque qui glorifie la performance et le fait de repousser toujours plus ses limites. Hein.
Exactement, c'est aussi pour ça que la cocaïne est de plus en plus utilisée à visée sexuelle, là aussi dans l'idée d'être dans un culte de la performance dont il faut faire attention, et des idées reçues, des représentations dont il faut se méfier, parce que sinon ça peut clairement donner des troubles extrêmement sévères.
Quelles sont les complications liées à l'usage de cocaïne ?
La première majeure qu'il faut souligner, c'est que qu'on prenne une fois, deux fois ou 10 000 fois de la cocaïne, il y a un risque d'infarctus du cœur. Multiplié par 24, 60 minutes après. Donc ça, c'est le premier point. Après, on peut faire d'autres accidents. On peut faire des accidents psychiatriques, comme Des idées un peu tristes, des idées parano, etc., des symptômes paranoïaques, et on peut retrouver d'autres complications.
Quelles sont les stratégies thérapeutiques si on est addict à la cocaïne?
Alors, je vous conseille d'écouter dans mon podcast Diane, hein, je place Diane, mais Diane infirmière qui prend de la cocaïne, et vous allez voir comment tout s'installe et comment elle se fait traiter. Les stratégies thérapeutiques, c'est on doit initier l'abstinence et maintenir l'abstinence, et c'est très très compliqué.
Ça se traduit comment?
On doit sevrer la personne, donc la désintoxiquer, c'est on va dire entre guillemets assez simple, mais il faut prévenir derrière la rechute. Et c'est la période la plus compliquée, on va combiner médicaments et thérapie comportementale.
Bonjour Benoît, bienvenue.
Bonjour.
On termine avec vous.
Oui.
Vous êtes addict à plusieurs des substances qu'on a évoquées ce matin.
Hein. Alors moi, pas personnellement, même si je suis assez d'accord avec le je gère de dit tout à l'heure, mais c'est surtout je suis DJ dans le milieu de la nuit, donc je côtoie beaucoup de consommateurs en fait, et de polyconsommateurs, et je trouvais ça intéressant en fait de voir le lien en fait entre les benzodiazépines et la cocaïne et l'ecstasy notamment, parce que j'ai pas mal de potes à moi qui en fait prennent la nuit des substances qui vont être excitantes et qui le matin, pour à force de consommer tous les week-ends, prennent des benzodiazépines pour redescendre. C'est des descentes en fait qui fait tomber. Donc en fait, on est sur des polyconsommations et des addictions qui sont très graves, des gros problèmes psychiatriques. Pas mal de potes sont partis à l'hôpital, etc. Donc je voulais faire le lien entre ces deux consommations là, quoi.
C'est très intéressant, docteur Blanc.
C'est tout à fait vrai. On sait qu'aujourd'hui, la consommation, et c'est vrai pour toutes les substances dont on a parlé au cours de ces deux émissions, on est de plus en plus face à une polyconsommation, c'est-à-dire le fait de consommer plusieurs produits. Et c'est pas tant que les personnes vont être attirées vers tel produit, mais finalement vont rechercher soit un effet de défense, soit un effet euphorisant, soit un effet sédatif, et finalement vont aller piocher dans les substances qu'ils vont trouver à leur disposition.
Un mot de conclusion, professeur Carilla.
Merci d'abord Ali d'avoir fait cette émission, ces deux émissions, parce que je crois que c'est d'intérêt public.
Et surtout pendant la crise sanitaire.
Ouais, complètement. Et puis là maintenant, et que il y a des services, il y a des spécialistes, il y a des médecins généralistes qui peuvent accueillir si vous souffrez de troubles liés à la consommation de substances. Et on n'a pas parlé des addictions comportementales, mais ça fait aussi partie du panel.
Ça sera l'objet d'une troisième émission.
On a hâte de revenir, Jean-Victor et moi.
Effectivement. Merci beaucoup, docteur Jean-Victor Blanc. Addict, comprendre les nouvelles addictions et s'en libérer, c'est publié chez Arquet. Merci professeur Laurent Carilla. Merci. Votre podcast Addiction avec un K est disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez réécouter cette émission et le premier volet diffusé lundi dernier sur l'appli et sur le site France Inter. Demain, comment lutter contre l'éco-anxiété? Nous recevrons notamment le professeur Antoine Pellissolo. Le réchauffement climatique, les catastrophes qui affectent peut-être votre morale et provoquent de l'anxiété, de la déprime ou un épisode dépressif. Nous verrons comment faire face à cette éco-anxiété avec cerveau et psycho. N'hésitez pas à nous laisser d'ores et déjà une note vocale sur l'appli France Inter.